Courte Pointe avec Danny Benz.
Bonjour mesdames et messieurs, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la bienheureuse Louise-Élisabeth de Lamoignon, que l'on appelle aussi Mère Saint-Louis. Fille de Chrétien-François de Lamoignon de Baville et de Marie-Élisabeth Berrier, Louise-Élisabeth naît dans l'hôtel particulier des Lamoignons à Paris le 3 octobre 1763 et fait partie de la haute noblesse française. Elle est baptisée le jour même à l'église Saint-Sulpice. Louise-Élisabeth est proche de sa grand-mère maternelle, Catherine Madeleine de Jors de Fribois, qui reçoit la famille dans son château de Tubœuf en Normandie et qui veille à la piété de sa petite fille tout en lui donnant des précepteurs de qualité. Elle épouse en la chapelle de l'hôtel Lamoignon en février 1779 Édouard-François-Mathieu Mollet, conseiller au Parlement de Paris, issu d'une dynastie de magistrats. Ils auront 5 enfants, dont 2 atteindront l'âge adulte. Madame Mollet forme, grâce à Monsieur de Pansemont, nouveau curé de la paroisse Saint-Sulpice, un groupe de dames pour secourir la pauvreté du quartier pendant le dur hiver de 1788-89. Au cours d'une retraite, elle sent l'appel du Christ. Puis, la Révolution survient, la famille reste en France malgré un court intermède à Bruxelles en 1791. Le comte et la comtesse Mollet de Champlatreux sont de retour en janvier 1792 pour se mettre en règle avec la loi du 9 novembre 1791 sur les immigrés. Ils sont cependant arrêtés et enfermés à la conciergerie. Madame Mollet est libérée à cause de son état de santé, mais son mari, homme intègre et charitable, est guillotiné le jour de Pâques 1794. Madame Mollet, profondément affectée par l'exécution de son mari et la mort de sa fille de 4 ans en 1794, songe à entrer dans un ordre contemplatif. Elle a 30 ans et renouvelle son pacte avec la croix du Christ. Elle est expulsée de chez elle. Elle ne retrouve sa propriété de Méry-sur-Oise que l'année suivante. Elle perd ensuite son frère qui combat contre la convention thermidorienne en Bretagne en 1795. C'est une nouvelle épreuve. Elle est cependant dissuadée à cette époque d'entrer en religion par son confesseur, Monsieur de Pansemont, prêtre avec qui elle correspond clandestinement et qui, revenu d'exil, est devenu en 1802 évêque de Vannes. Il l'encourage plutôt à fonder en 1803 une congrégation religieuse. Il en a l'idée en voyant des jeunes filles désœuvrées près du port. Il lui écrit « Dieu vous attend pour commencer son œuvre ». Ses 2 enfants étant mariés, elle accepte. Le concordat est entré en vigueur depuis quelques mois et la liberté religieuse peut s'établir en France. Madame Mollet s'installe à Vannes avec quelques compagnes et sa mère, Madame de Lamoignon, dans un premier couvent acheté par elle près du port de Vannes. C'est là que naît la Congrégation des Sœurs de la Charité de Saint-Louis, le 25 mai 1803. Madame Mollet ouvre des classes pour des fillettes de familles pauvres. Elle prononce ses vœux sous le nom de Sœur Saint-Louis, Mère Saint-Louis, lorsqu'elle devient supérieure de la congrégation. Les vocations affluent. Elle y anime notamment un atelier de dentelle et de tissage du coton. Lorsque Pie VII vient sacrer Napoléon Ier, il bénit la fondatrice et ses compagnes. Une nouvelle épreuve crucifiante survient en 1807, alors que Monseigneur de Pansemont meurt d'une attaque d'apoplexie. Une nouvelle maison de charité ouvre en 1808 à Auré, dans l'ancien couvent des Cordelières, puis fonde un noviciat séparé en 1810. la congrégation est reconnue civilement par une ordonnance royale en 1816. En 1824, elle achète l'ancien couvent de Saint-Gildas de Ruys pour y ouvrir une école gratuite et une œuvre de retraite. Elle a créé en 1816 également une maison de charité appelée Châtel. Mère Saint-Louis meurt le 4 mars 1825, serrant sur son cœur le crucifix qui ne la quittait pas depuis ses jeunes années. Elle est enterrée à Vannes, dans la chapelle de la communauté. Au décès de la fondatrice, la congrégation compte une cinquantaine de religieuses désirant vivre selon son esprit et porter aux déshérités l'amour de Dieu qui les habite. Le pape Grégoire XVI accorde l'approbation finale de l'Institut le 4 décembre 1840. Au début du XXe siècle, la vague d'anticléricalisme qui déferle sur la France incite les sœurs de la Charité de Saint-Louis, dont les établissements sont confisqués, à changer de pays et à accepter un dur exil. C'est pour la supérieure générale du temps, Mère Marie-Fidèle, une interpellation à entrer dans de nouvelles contrées où le Seigneur ouvrirait la voie à son institut. Elle opte d'abord pour l'Angleterre et ensuite pour le Canada. Elle est déclarée vénérable par le pape Jean-Paul II le 16 janvier 1886. La Congrégation pour la cause des saints reconnaît unanimement un miracle, guérison de Marcel Lesage, un Québécois souffrant d'une ostéomyélite chronique et guéri à la suite de l'intercession de sa famille, le 10 février 2011, ce qui permet au pape Benoît XVI de promulguer le décret de béatification de Mère Saint-Louis le 19 décembre 2011. La cérémonie de béatification eut lieu sur l'esplanade du port de Vannes le 27 mai 2012. C'est la première béatification célébrée en Bretagne. Elle sera fêtée désormais chaque 4 mars, jour de sa mort. Et voici maintenant quelques prières. Connaissez-vous Notre-Dame de la Rue? Une chaîne de prières parcourant le monde afin de soutenir les plus démunis comme ceux qui les accompagnent. Tout est parti d'un événement tragique en décembre 1984. Un homme est mort de froid dans la rue à Versailles. Une équipe d'amis se mobilise et ouvre un petit centre d'hébergement d'urgence. De nombreux bénévoles soutiennent cette initiative qui marque la naissance de SOS Accueil. Une dizaine d'années passent et de nouvelles actions sont lancées. Création d'une maison communautaire, stationnement d'un bus sur l'avenue de Sceaux pour entrer en contact avec les personnes marginalisées. Un centre d'accueil de jour ouvre ses portes et reçoit une quinzaine de personnes dès son lancement. Bernard Delacroix Vaubois, l'un des fondateurs, prend conscience qu'on ne peut durer dans l'exercice de la charité sans ressourcement spirituel. Le 1er janvier 2000, il compose une prière à Notre-Dame de la Rue. Marie, toute puissante sur le cœur de Dieu, regarde avec tendresse tous les exclus de la terre, qu'ils reçoivent par ton intercession le courage de demander aide et soutien, le désir de sortir de leurs liens, la volonté de saisir la main tendue vers eux, la joie d'être reconnus dans leur dignité, la force d'accepter simplement d'être aimé. Penche-toi aussi sur tous ceux et celles qui les accueillent. Donne-leur un regard qui ne juge pas. Mets sur leurs lèvres les mots qui encouragent. Procure-leur la joie dans la réussite, l'humilité dans l'échec. Fais que chaque jour ils espèrent contre toute espérance. Embrase leur cœur d'un ardent désir d'aimer, pour que par toi et avec toi, Notre-Dame de la Rue, chacun se reconnaisse davantage, frère et sœur de Jésus. Ainsi soit-il. La deuxième prière est de Madeleine Delbrel. Ma vie comme une danse. Seigneur, fais-nous vivre notre vie, non comme un jeu d'échecs où tout est calculé, non comme un match où tout est difficile, non comme un théorème qui nous casse la tête, mais comme une fête sans fin où ta rencontre se renouvelle, comme un bal, comme une danse entre les bras de ta grâce, dans la musique universelle de l'amour. Ainsi soit-il. Et voici maintenant le moment de la chanson choisie de la semaine. Elle est intitulée « Qu'est-ce qu'on va faire avec ce monde ?» et on entendra la voix d'Hélène Ségara.
Qu'est-ce qu'on va faire avec ce monde? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce monde? Est-ce que ce monde pourrait changer? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce monde? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce monde? Est-ce que l'amour a des ailes?
ainsi que prend fin cette émission. J'espère qu'elle aura su vous plaire. Je remercie Berthold Bernier pour son choix musical toujours bien trouvé et pour la réalisation technique de cette émission. Sur ce, portez-vous bien. À bientôt.
C'était Courte Pointe avec Danny Benz.